Vous écoutez Dans la tête d'un leader,
le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs.
En 2008, Christopher a fondé Marseille, devenu aujourd'hui une référence du nautisme et du sport business.
Nous accompagnons marins et dirigeants ambitieux dans le développement de leurs projets.
Nous mettons notre expérience voile au cœur de la performance des entreprises.
Dans ce podcast, avec Amandine, on vous partage notre passion pour le leadership et on vous emmène
dans la tête d'un leader. Christopher y reçoit ses confrères et amis, les plus grands marins de la planète.
Amandine, quant à elle, accueille des dirigeants tout aussi inspirants.
Un épisode voile,
suivi d'un épisode business,
mais toujours les mêmes thématiques abordées. Motivation, concentration, gestion de crise et prise de décision.
Afin de décrypter ensemble, avec nos invités, les ressorts du management en mer comme à terre.
Et d'entrée, dans la tête d'un leader.
Tamara, bonjour, merci de venir dans notre podcast Dans la tête d'un leader. Je suis vraiment ravi de t'avoir sur notre podcast. Et pour la petite anecdote, je suis à Lisbonne en route pour le Brésil. Donc voilà, il y a un signe dans le fait qu'on ait réussi à faire ce podcast à ce moment-là. Et donc je suis entre deux avions et je vais vers ton pays puisque tu es brésilienne. Ton père est un navigateur et photographe très connu. Et tu as commencé à faire des voyages d'ailleurs quand tu étais toute petite avec lui, donc notamment en Antarctique. Tu nous as expliqué la semaine dernière quand on était à la montagne lors d'une conférence que finalement c'était l'absence de ton père et le manque de sa présence qui t'avait fait peut-être aimer la mer, en tout cas qui t'avait fait rêver au défi que maintenant tu te lances. Donc, si je résume rapidement ce que tu racontes brillamment dans tes interventions, notamment pour les entreprises, c'est vraiment cet ancrage de ton père maritime qui t'a fait aller dans cette voie, mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il t'a pas du tout aidé. Il t'a aidé à sa manière puisqu'il a décidé de ne pas t'aider pour t'aider et ça a vachement bien marché. Du coup, tu as fait un petit peu tout toute seule avec tes moyens, avec ton envie, avec ta motivation. Tu as déménagé en France, tu as appris le français pour apprendre à lire et notamment Moitessier, La Longue Route, les grands récits de voile. Et puis, tu as poussé le curseur petit à petit de plus en plus loin en te disant que tu voulais participer à la Mini Transat. Et puis, tu ne trouves pas de sponsor. Et finalement, tu te dis, mais peu importe le bateau, moi, tout ce que je veux, c'est être sur l'eau. Et tu trouves, grâce à un de tes followers YouTube, un tout petit bateau coincé dans un fjord en Norvège. Tu pars le chercher, tu bricoles un peu et puis tu le ramènes en France sans trop rien dire à personne. Et tu te lances ensuite dans la traversée vers chez toi, vers le Brésil. Et là, au Brésil, tu es accueilli comme une icône, comme une star, puisque tu deviens la première et la plus jeune brésilienne à traverser l'Atlantique, qui plus est sur un tout petit bateau, ce qui fait l'étonnement de pas mal de monde et notamment de ton père. Et puis depuis, tu enchaînes pas mal de conférences en entreprise qui te permettent de financer des nouveaux projets. Alors, on va peut-être pas en parler sur le podcast parce que c'est encore un petit peu un secret, mais voilà, t'es sur un projet très ambitieux pour les mois et l'année prochaine. Donc voilà. Et j'oublie un truc important, tu es écrivaine, tu as déjà écrit deux livres et d'ailleurs on espère qu'ils seront bientôt traduits en français parce que j'ai eu la chance d'écouter un petit texte de toi en français pour le coup et finalement je me suis dit que tu devrais peut-être les écrire toi-même en français. Donc voilà pour la petite présentation et puis pour te mettre tout de suite dans le bain, j'aimerais que tu me dises si tu as une devise, un mantra, quelque chose qui, voilà, une petite phrase que tu gardes en tête et qui guide ta vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle.
Merci beaucoup, Christopher. Merci beaucoup à tous les écouteurs du podcast. Je suis très contente de participer. Et je pense que mon mantra personnel, celui que je me répète à chaque fois que j'ai peur, à chaque fois que les choses semblent être difficiles. À chaque fois que la mer m'impressionne, c'est j'ai ferme les yeux et je me dis que dans le futur, ça sera pire. Et ces mantras, d'une certaine manière, il m'est fait avoir l'impression et prendre les situations difficiles comme une opportunité de progresser, une opportunité de m'entraîner, une opportunité à être, à devenir plus compétente, à apprendre à endurer, à apprendre à trouver des solutions même quand elles semblent être limitées. Je pense que j'ai eu la chance de grandir entourée des récits avant même que j'aie les droits à la langue. Grâce aux gestes qui faisait mon père quand il partait, quand il revenait de ses voyages, et je pense que c'est peut-être ça qui vivent tes enfants, et c'est peut-être ça aussi qui vivent les enfants des chefs d'entreprise qui voient leurs parents partir et rentrer tard tous les soirs parce quand ils entreprennent. Et c'est assez inspirant d'avoir des parents qui ont des ambitions, qui ont des passions et qui croient à ces projets et qui vont jusqu'au bout. Et pour moi, c'était ça la première, mon premier souvenir de la mer, c'était de ces gestes de absence et retour qu'on vivait à la maison. Et plus tard, quand j'ai accédé à ma propre langue, ma langue maternelle, le portugais, l'effet de pouvoir échanger avec mon père et de pouvoir partir dormir entouré de ces récits de ces animaux qui émergeaient de l'eau et qui étaient plus grands que les bateaux lui-même et pourtant très gentils, les baleines, ou de ces oiseaux qui étaient qui quand ils ouvraient les bras, ils étaient plus grands qu'un être humain et sans trop battre ses ailes, ils étaient capables de faire le tour du monde. Quand il me parlait de ces vents et il disait qu'ils étaient tellement forts qu'ils pouvaient faire s'envoler un être humain, et je ressentais les vents rentrer par la fenêtre ouverte et je me projetais dans cette situation un jour, dans ces contextes un jour, tout ça me donnait très envie de les vivre moi aussi dans ma propre peau, de voir les animaux avec mes propres yeux, de sentir l'odeur des manchots quand ils sont regroupés. Et en me baladant au milieu de ces animaux et de voir ces paysages qui me faisaient comprendre que le monde était tellement plus vaste, tellement plus grand et tellement plus merveilleux, intéressant que les dessins animés que je voyais par la télé, parce qu'on était capable de ressentir avec notre corps et de se rendre compte qu'on ne faisait partie de seulement une petite minuscule goutte d'eau sur la surface de la planète. Et je pense que ça vient de là mon envie de naviguer, mon envie de partir, mon envie de construire des projets, de montrer qu'un défi très simple, comme d'aller d'un point A à un point B, il peut être possible à travers l'envie et à travers les solutions qu'on trouve sur la route.
Et tu dis pour terminer sur ta devise, tu dis que en fait au moment où il t'arrive quelque chose de difficile, tu te dis que ça sera forcément pire après. Si tu le dis comme ça, c'est un petit peu ça peut être un peu pessimiste. Tu vois ce que je veux dire, ou ça peut faire encore plus peur. Si tu le, en fait, toi, au contraire, ça te motive parce que tu te dis, bah là, c'est dur, mais il faut que ça va me préparer pour la suite qui va être encore plus dure. C'est ça?
Oui, tout à fait. Pour moi, c'est pas pessimiste. Au contraire, je pense que mes ambitions, elles restent plus grandes que mes peurs. Et vu que j'ai ces ambitions-là et qui vont au-delà d'une traversée de l'Atlantique, qui vont au-delà d'une navigation dans les glaces, vu que j'ai envie de faire plein de choses et j'ai envie de trouver des solutions pour plein de problèmes que je peux éventuellement retrouver dans ces situations et ces conditions, j'essaye de rendre les situations difficiles j'essaie de les voir comme une opportunité. Et je me souviens, je me souviendrai toujours d'une devise d'une prof de design. J'ai fait des études d'architecture, 7 ans et demi d'architecture. Et ça m'a appris beaucoup de choses dont je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. Mais ça m'a appris notamment une phrase, une devise. Ma prof, Madame Françoise Coudon, elle disait que la mission de l'architecte était de transformer les inconvénients en avantages. Et c'est comme ça que je vis la navigation. C'est comme ça que je vis le développement des projets, qui peut être très dur, très frustrant, souvent solitaire, même si le travail d'équipe est indispensable, mais nos ressentis sont solitaires. Et c'est pour ça que je trouve pas que c'est pessimiste. Ça me donne des forces pour les vivre.
Je comprends mieux. Comme je te l'avais peut-être expliqué, hein, dans ce podcast, on essaye de revenir sur des questions management qui sont toujours les mêmes, qu'on pose à la fois aux navigateurs et aux entrepreneurs. Et la première question, le sujet qu'on travaille le plus, nous, chez Marseille, en entreprise, c'est le sujet de la prise de décision. Et donc, des décisions, tu en as enchaîné pas mal, que ce soit dans la gestion de tes projets ou quand tu étais en mer. Et j'aimerais que tu nous partages ton modèle, en tout cas la manière dont tu prends ces décisions, que ce soit pour gérer tes projets ou quand tu es en situation en mer, dans l'urgence peut-être. Est-ce que tu as des méthodes, est-ce que tu as des choses que tu pourrais partager avec nos auditeurs sur ce sujet-là de la prise de décision?
J'ai un postulat de départ. Je ne pense pas qu'il est le meilleur du monde, mais je pars du principe que à 26 ans actuellement, 22 ans, quand l'âge que j'avais quand j'ai acheté mon premier bateau, je n'étais pas la personne plus mature. J'étais assez immature pour faire les projets dont j'ai rêvé de faire. Je considérais que j'avais pas l'expérience qui me fallait pour savoir à quoi m'attendre. J'ai considéré que il fallait encore que je fasse beaucoup de d'erreurs éventuellement avant de pouvoir découvrir quelles étaient les meilleures manières de les gérer. Donc plutôt que d'éviter les erreurs, je me disais que il fallait que je profite des erreurs que je pouvais faire au début pour ne pas le répéter au futur, quand les bateaux seraient plus grands, quand les conditions seront plus difficiles, quand j'y serai plus loin de la terre, quand j'y serai plus loin de la civilisation. Donc, je partais de ces postulats au départ, prenant en compte mon âge. Et c'était assez intéressant au début, parce que c'était ma première... Quand je suis partie de la Norvège en 2020, c'était la première fois que je naviguais en solitaire. Je savais pas que la navigation allait être aussi dure. Et puisque voilà, j'en ai pas raconté à beaucoup de gens, j'ai juste partagé ça avec ma grand-mère, cette amie qui m'a aidé à acheter les bateaux et les pêcheurs qui étaient sur place. Et quand j'ai eu le courage, après un mois de préparation, de les partager avec mon père, tout ce qu'il m'a dit, c'était la route a l'air d'être très longue, mais bonne chance. Et quand il m'a dit bonne chance, sans donner des conseils, sans poser plus de questions, sans vouloir rentrer dans le détail, je me suis juste dit c'est peut-être pas si dur. Et je suis partie. Donc j'avais une espèce de naïveté au départ qui a protégé mon rêve. Et je sais que j'ai pris des risques dont j'avais pas encore des connaissances au début. Et en même temps, j'essaie de m'entourer des récits, de m'entourer d'expériences de gens que j'ai retrouvés sur la route. Et chacun, en prenant compte la perspective de chacun, donc j'échangeais souvent avec des pêcheurs pour avoir des avis sur les types de navigation qu'on pouvait faire, sur les risques potentiels qu'on pourrait trouver. Et les pêcheurs, pour les navigateurs, sont des sources de très bons conseils, puisque ils partent dans toutes les situations possibles en mer, pas forcément avec les meilleurs moyens, et ça c'est très riche pour nous. J'ai échangé aussi avec d'autres navigateurs que j'ai trouvés sur place. Et c'était en continuant à être ouverte à d'autres avis et d'autres conseils que j'ai été, et aussi en étant sensible à mes propres ressentis et en prenant en compte mes propres erreurs, que j'ai commencé à me faire mon propre avis sur quelle était la bonne météo pour partir avec les bateaux que j'avais. Il a fallu que j'ai vive pour que j'apprenne peut-être la chose qui est plus utile en bateau, c'est d'avoir connaissance des limites des matériaux qu'on a, et avoir connaissance de nos limites physiques en tant qu'être humain. On a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin de retrouver du réconfort des fois, on a besoin de retrouver la morale et l'humour, souvent. Et c'est en apprenant quelles sont nos limites qu'on devient plus autonome.
J'ai deux questions subsidiaires par rapport à tout ce que tu viens de nous partager. Est-ce que au fil du temps que tu as passé sur ton bateau, qui s'appelle Sardinia, hein, d'ailleurs, on lui fait une petite dédicace. Est-ce qu'au fil du temps, justement, tu parlais de ressenti, de sensation, est-ce que tu as senti tes sens se développer, être plus alerte et être de plus en plus sensible à ce qui t'entourait, et que ça t'aidait justement à prendre les bonnes décisions en termes de navigation?
Je pense que la navigation que j'ai fait est un peu différente de celle que toi tu fais d'habitude, de faire, puisque je suis pas en course. Donc j'ai peut-être plus de place pour prendre en compte mes propres ressentis plutôt que des outils ou des senseurs, des capteurs ou des polaires ou des chiffres qui nous disent quelle est la meilleure manière d'optimiser les vents et les conditions et les vagues. Moi, j'y suis, vu que je pars seule, c'est moi qui décide ma date de départ, c'est moi qui décide quand est-ce que je dois m'arrêter, c'est moi qui prend la décision si c'est trop dangereux ou pas de vivre ce que je suis en train de vivre, et qu'il n'y a pas trop de gens sur qui je peux compter pour quand j'ai un grand souci. J'ai dois être assez alerte au danger tout le temps, et je pense que j'ai plus de place pour cette sensibilité, pour développer cette sensibilité, puisque j'ai risque pas de perdre de place en testant, je risque pas de perdre de place ou de tomber dans les classements si jamais j'ai pars sur une pétole plutôt que de partir sur une tempête. Donc, je pense que quand on fait des voyages comme celle que j'ai l'habitude de faire, ou quand on fait des expéditions, ça, c'est quelque chose de très riche. Et aussi dans les départs sont souvent très solitaires, puisque je sais que je ne retrouverai pas des bateaux qui ont fait le même trajet que moi à l'arrivée. Il n'y aura pas forcément des gens qui m'attendent. Et pour ça, la construction du projet, elle part beaucoup de moi. Il y a des fois où les manques de motivation peuvent me côtoyer, et il faut que je les gère. Il faut que j'y reste assez fidèle à mes objectifs du départ. Il faut que je reste fidèle à mon intuition. Mmh.
Quand tu nous partages cet élan qui est né dans ton enfance d'aller en mer, de traverser les océans, on comprend comment c'est ancré. C'est ancré en toi, et tu nous l'as très bien expliqué aussi en introduction. Et je vous conseille, si vous n'avez pas vu les conférences TED de Tamara, d'aller jeter un œil, parce que ça vaut le détour. Mais qu'est-ce qui justement fait que tu arrives à conserver cette motivation au fil de tes projets, puisque je le rappelle, tu fais pas de la compétition, mais aussi, bah, du coup, t'as peut-être un peu moins de sponsors, et en tout cas, voilà, t'es toujours avec des moyens hyper limités, et tu fais avec ce que tu as. C'est toi-même qui bricole ton bateau, qui fait la peinture, qui répare le moteur, etc., etc. Donc, et là, t'as parlé des fois de baisse de motivation. Comment tu fais pour garder la motivation pendant ces phases de préparation et peut-être aussi sur l'eau? Est-ce que des fois, t'as des phases de désespoir, des moments où tu veux tout arrêter, tout abandonner? Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Les moments de préparation sont un moment assez dangereux pour les projets, puisque les désistements, ils semblent toujours juste à portée de main. On a l'impression que c'est facile de désister, qu'on peut facilement revenir en arrière. Ce qui est juste une petite décision peut tout arrêter et que le monde et la vie peuvent continuer comme avant le début du projet, ce qui est assez faux parce que si on continue pas, quand on s'expose au risque, quand on commence un chantier, quand on sort un moteur d'un bateau et qu'on commence à tout démonter, il en faut beaucoup d'énergie pour qu'il revienne en état, l'étape d'avant où il pouvait naviguer à nouveau. Mais en même temps, quand on s'expose au risque, la seule chance qu'on a de récupérer notre investissement, c'est de rester exposé. Sinon, on est sûr de tout perdre. Donc, ce qui me motive, c'est de penser à très, très long terme, de m'imaginer dans 10 ans, dans des eaux beaucoup plus difficiles, à faire les tours de l'Antarctique, où il y aura probablement ou sûrement beaucoup plus de vent, des vents très costauds, les vagues seront immenses, il y aura des icebergs autour. Et là, quand j'imagine dans ces scénarios-là, avec un bateau plus grand et potentiellement plus difficile à manœuvrer, je me dis, ce que je vis aujourd'hui, ça va. C'est pas si dur, c'est assez petit en fait. Donc, heureusement que je le vis maintenant. Heureusement que si jamais je suis fatiguée, que j'ai fait une faute, j'ai fait une erreur, c'est sur un bateau qui est pas si grand par rapport au bateau que je projette avoir dans 10 ans.
Ça veut dire que tu te vois dans 10 ans continuer cette vie d'exploratrice? Ça, c'est ma première question. Visiblement, ça a l'air très clair. On peut répondre oui tout de suite. Et tu te vois continuer à le faire toute seule? Tu parlais de l'Antarctique, en tout cas dans des pays hostiles.
J'espère que la construction des projets sera de plus en plus collective, parce que c'est bien de savoir réparer son propre moteur, mais plus l'ambition grandisse, plus les machines deviennent complexes, et j'espère pouvoir compter sur plus de gens sur un réseau que j'aurais fait. C'est intéressant de faire ses premières connaissances quand on cherche des sponsors, mais j'espère que dans 10 ans, j'aurai déjà un réseau assez solide déconstruit. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, j'imagine que ça va me servir pour les projets d'après. Et donc, tout, en fait, aussi les succès, mais surtout les échecs, ils deviennent une source d'apprentissage, ils deviennent une source d'expérience. Et j'ai l'impression que plus les situations que j'ai vues aujourd'hui me sont dures, plus j'ai vu des moments de frustration, plus je deviens aussi résiliente à cette envie d'abandonner, cette envie d'arrêter, parce que je deviens plus mature.
Super, c'est hyper intéressant comme partage ce truc que ce qui te guide, si je résume. C'est les rêves d'enfant que tu avais toute petite, les récits de ton père, les récits des grands navigateurs, et tu es en train de réaliser tes rêves d'enfant et tu vois même encore plus loin. Et finalement, c'est ça que ton guide et ta motivation permanente. Donc c'est super chouette. T'as eu des moments où tu as dû gérer des catastrophes techniques, que ce soit dans la préparation de ton ou de tes bateaux, comme tu le disais, des échecs ou des gros problèmes quand tu étais toute seule sur l'eau que a priori tu pouvais pas résoudre. Voilà, quel est ton mode opératoire quand tu te retrouves dans ce genre de situation de crise?
Bah, ça arrive souvent, je pense que je vais encore vivre beaucoup. Donc, je ne sais pas si j'ai un mode opératoire qui marche dans tous les cas. Mais ce dont je me souviens d'avoir vécu comme situation difficile était dans les poteaux noirs. J'ai des souvenirs d'avoir suivi la transaction Jacques Vabre que tu as fait avec Jérémy Bayou. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'avais, grâce à ton récit, j'avais le souvenir que les poteaux noirs étaient une zone où il y avait beaucoup de pétrole. Mais je pense que j'ai trop retenu la partie de la pétrole et pas assez la partie où il y a aussi des gros nuages noirs qui amènent beaucoup de pluie et beaucoup de tempêtes très concentrées et des vents assez violents qui tournent dans tous les sens. Bah, cette partie-là, j'étais pas tout à fait au courant avant de l'avoir vécu. Et dans une de ces grosses nuages noirs dans laquelle j'étais bloquée pendant 10 heures, j'ai perdu les outils que j'ai considérés qui étaient les plus importants pour la navigation du bateau en solitaire. C'était les pilotes automatiques d'Esper, les lanternes VHF que je considérais qui étaient assez essentielles pour se communiquer avec d'autres bateaux en cas d'urgence, les feux de navigation, un instrument assez simple qui sert à être vu. Et j'étais assez stressée, assez fatiguée aussi. Et les bateaux étaient pleins d'eau. Et je sors de ces gros nuages et je me retrouve dans une pétole. Ouais, c'est là que je me rends compte que la tempête, c'est dur, c'est fatigant, mais il n'y a rien de pire qu'une pétole. Parce que au moins, dans la tempête, les risques, ils sont assez visibles. Quand on est dans une pétole, les risques, ils sont ultra invisibles. Vu qu'apparemment, il n'y a pas de danger, on oublie de suivre les protocoles plus basiques de sécurité parce qu'on dit, en fait, ça va, je ne vois rien de dangereux autour de moi. Et je commence à ne plus boire de l'eau, de ne pas bien manger, d'oublier de mettre mon gilet. Et en perdant la discipline, qui est quand même élémentaire pour qu'on puisse garder le moral, j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce que je faisais là, pourquoi j'étais partie. J'étais à une distance égale du Cap-Vert et du Brésil. Il en manquait encore au moins une semaine de navigation pour arriver au Brésil. Il y a des messages par satellite qui arrivent sur mon dispositif de communication. Les messages étaient envoyés par ma maman qui disait que ma route était mauvaise, que je faisais n'importe quoi, qu'il fallait que je change complètement de direction et que j'avais fait une grave erreur de navigation en ayant pris cette route. Et je me dis, bon, je vais peut-être pas réussir au final, peut-être que je ne suis pas capable, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là. Et c'est à ces moments-là que j'ai mis, que c'était évident pour moi que j'avais fait un pari au début. Et que je m'étais donné les droits, un droit qui était les droits de ne pas avoir l'option, la chance, la possibilité d'abandonner. Donc, j'ai réfléchi, bon, comment abandonner quand on est entouré d'eau et qu'il n'y a personne autour et qu'on n'a plus envie d'être là. Je me dis, bon, si je tape sur les boutons SOS qui envoient un signal satellite jusqu'aux États-Unis, il va prendre au moins 3 jours pour que quelqu'un me trouve ici. Donc, il va falloir que j'attende 3 jours et j'ai pas envie d'attendre 3 jours parce que 3 jours, ça me semble tellement long. J'essaye d'appeler quelqu'un par les VHF, bon, ça va pas marcher parce que j'ai plus d'antenne. Donc, comment abandonner quand on a plus envie d'être là? Bah, je peux peut-être sauter dans l'eau. Ça peut peut-être marcher. Et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que, en fait, j'avais perdu plein de références, plein de repères. Quand on voit personne pendant plusieurs jours, on perd l'effet miroir et se rendre compte par la réaction de l'autre, de nos propres ressentis. Donc, quand on voit quelque chose de trop beau, on dit « Waouh, c'est trop beau !» Mais il n'y a personne qui va entendre. Du coup, on se pose la question « Est-ce que c'est vraiment beau ?» Ou est-ce que ça ne l'est pas ?» Quand on est fatigué, on prend du temps à nous rendre compte de notre fatigue puisqu'on ne voit pas la fatigue ni le repos dans les regards de l'autre. Il n'y a personne qui va nous dire « Couvre-toi, bois de l'eau, mange bien. » On est tout le temps notre propre source de motivation, notre propre source d'affection. Et sans les miroirs, j'étais un peu perdue dans mes références et je me suis accrochée finalement à la discipline, au protocole habituel. J'ai regardé l'eau et je me dis, ok, si je saute dans l'eau, peut-être que je vais disparaître. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais mon bateau, les voiles sont bien réglées, donc il va continuer sa route et il va arriver quelque part. Un jour, je sais pas quand, mais il va arriver quelque part. Et quand il arrivera quelque part, Tamara, les vaisselles, c'est en salle. Et ça, je pouvais pas supporter l'idée que après 7 minutes de navigation, Sardine, mon bateau, il arriverait enfin à sa destination au Brésil. Avec les vaisselles sales, et je me dis, ok, ça, c'est quelque chose que je peux pas accepter. J'ai rentré dans les bateaux, j'ai mis mon gilet, j'ai mis brosse les dents et j'ai mis lave les mains, je commence à faire la vaisselle. Et en faisant la vaisselle, je me dis, bon, si je saute dans l'eau maintenant, dans 2 heures, ça va pas changer grand chose, donc, tant qu'à dormir un peu avant, j'ai mes reposes et en effet, j'avais besoin de repos puisque ça faisait 40 heures, je ne dormais pas du tout. Donc, j'ai mes reposes. Et en me reposant un peu, avec les idées un peu plus claires, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Comment je peux avoir cette réflexion absolument idiot? Ici, dans les bateaux, c'est un peu galère. Mais en mer, sans les bateaux, ça sera beaucoup plus dur. Donc, je suis restée dans les bateaux. Une semaine plus tard, j'étais arrivée à Recife, au Brésil. J'ai retrouvé ma maman, mon papa, mes copains, les followers. Les gens qui ont suivi tous les voyages et qui n'ont jamais su que j'avais vécu cette crise. Et maintenant, avec du recul, ça paraît très éloigné. Mais je suis contente d'avoir vécu cette expérience et d'avoir pu m'en passer. Des difficultés qui m'ont été présentées, puisque je sais que avec la fatigue et avec la crise et les contextes imprévus, j'aurais plus d'outils pour gérer ça que ce que j'avais à l'époque.
Et c'est super marrant que tu partages ça, que tu partages le poteau noir, le fait ce qui t'est arrivé et comment tu t'en es sorti. Alors nous, on était dans un contexte différent, effectivement, dans le récit que t'as lu, que j'avais écrit, qui s'appelait d'ailleurs Philosophie de l'amertume, parce que effectivement, cet endroit, il est particulier. Et ce que tu as vécu, ce moment où t'es tellement fatigué, tellement désespéré que tu commences à avoir des idées vraiment idiotes comme celle de sauter à l'eau ou autre. Je trouve super intéressant que tu dises que t'es sorti de ça par la discipline, par la routine. Et en fait, nous, on était en compétition, mais c'est exactement la même chose. On avait perdu la course, enfin, on était en train de perdre la course. On était arrêté là depuis plusieurs heures et finalement on y est resté 3 jours. Mais ce qui nous a aidé à sortir petit à petit de ce trou noir, de ce poteau noir, c'est de se raccrocher à des trucs très très basiques, l'enchaînement des quarts, le réglage des voiles, manger, dormir, faire la navigation. Et c'est un petit peu ce que tu racontes de finalement quand tout va mal. Se raccrocher à cette routine, à cette discipline, c'est hyper intéressant. Et je sais pas si t'as dû lire les récits de Mike Horn, mais Mike Horn, il parle vachement de ça aussi, de cette discipline quotidienne qui l'aide dans les moments difficiles.
Ah oui, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. J'avais jamais vécu ça avant, mais j'ai le souvenir aussi d'un récit d'un explorateur qui s'appelle Roald Amundsen, qui racontait sa trajectoire, son déplacement pour arriver jusqu'au pôle sud, par contre. pardon. Et il était dans une compétition contre l'anglais Scott, qui était parti aussi à peu près au même moment. Et ce qu'il décrivait dans les bouquins, c'était il disait qu'il avait mis un objectif par jour de se déplacer un certain nombre de milles et que peu importe ce que s'est passé dans la journée, il n'allait pas dépasser ces certains nombres de milles ni faire moins. Donc il s'accrochait à ça et c'était ça qui selon lui, l'aidait à progresser des façons constantes. Mon papa, quand il a fait sa première grande navigation, c'était une traversée de l'Atlantique Sud à la rame entre la Namibie et les Brésils. Il a été les premiers à faire ça dans l'Atlantique Sud après avoir lu le récit de Gérard de Beauville qui a fait ça dans l'Atlantique Nord. Et ça lui a pris 100 jours et il nous racontait quand on était enfant que partageait les grands trajets dans des petits morceaux et c'était l'effet de se concentrer à des petites étapes qui l'aidait à garder le moral quand les conditions semblaient trop difficiles.
J'ai une question qui est peut-être, je me rends compte qu'elle est très, est-ce qu'elle est très liée à la compétition d'ailleurs ? Peut-être pas. J'ai une question que j'ai l'impression qui est un peu liée à la compétition, mais comment tu qualifies, la question originelle, c'est comment tu arrives à maintenir un niveau de concentration, donc peut-être de lucidité. On en a un peu parlé avec cet exemple du poteau noir pendant une durée très longue. Et est-ce que c'est quelque chose que tu travailles? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu expérimenter pendant tes voyages et comment tu te projettes dans l'avenir par rapport à ça puisque sans dévoiler ce que tu vas faire dans quelques mois, tu te projettes à long terme dans des expéditions solitaires dans les endroits les plus dangereux, les plus froids au monde. Et voilà, ça demande effectivement une concentration de tous les instants. Mais en même temps, comme nous en course au large, on peut pas avoir la même concentration que, je sais pas moi, un joueur d'échecs ou un joueur de tennis qui joue que quelques minutes ou quelques heures. Nous, c'est sur des jours, des semaines, des mois, voire plus.
Oui, je pense que le niveau de concentration n'est peut-être pas le même quand on fait un voyage, une expédition ou quand on fait une course, parce que j'ai pas grand-chose à perdre en prenant plus de temps à faire un certain nombre de milles. Et lorsqu'en compétition, ça peut tout changer. Donc pour moi la concentration, je pense qu'on doit être, on doit avoir plus d'attention que de concentration. Elle est plus diffusée puisque à l'arrivée on n'aura pas un prix pour ce qu'on a fait. À l'arrivée il y aura peut-être pas énormément de gens qui nous attendent. À l'arrivée notre suite sera pas aussi évidente. Donc on sait que dès qu'on arrive c'est pas comme si j'avais un calendrier à peu près prévisible de comment ça allait se passer les mois suivants ou l'année suivante. Donc il y a beaucoup de choses je dois encore ajouter beaucoup d'énergie pour préciser ma suite et les projets sont à construire depuis le début. C'est comme si j'avais besoin de créer une course à chaque fois pour pouvoir la parcourir. Je dois arriver avec des choses à raconter et parce que sinon ça aurait servi à rien en fait. Sinon j'aurais vécu ça pour moi, sinon ça n'aurait été que un exploit personnel. Et pour avoir grandi avec mon papa, donc pour avoir grandi avec l'opportunité incroyable, le privilège de savoir que la mer existe, d'avoir pu apprendre des leçons à travers les récits de mon père et d'avoir pu me faire inspirer par ça, j'ai considère que j'ai une obligation dans la vie, c'est de pouvoir donner à d'autres personnes l'opportunité de savoir que ça existe, de pouvoir aussi avoir ces passions que j'ai pu avoir, donner à d'autres personnes la possibilité d'avoir ces mêmes envies, de partir, de construire son déplacement et sa trajectoire, son trajet, peu importe les milieux, donc à terre, en mer, au sein de l'air communauté, dans l'air aussi. Donc, pour moi, les projets, ils terminent pas quand je suis arrivée. J'aurais pas une place au podium. J'aurais peut-être pas été concentrée pendant tous les trajets. J'aurais peut-être pas tout donné pendant tout le long. Il faut que je m'épargne vachement plus et j'ai le droit de m'épargner plus. Mais c'est en arrivant que pour moi, les retours à la société, il peut commencer et pour moi c'est quelque chose de très long. J'ai projette les navigations et les projets en prenant en compte qu'en arrivant je vais produire un livre, je vais faire un documentaire, il y a un temps d'écriture qui est long, je donne pas une autre personne les droits d'écrire mon texte. Je vais l'écrire moi-même, je vais faire une série de conférences, je vais aller au sein des entreprises, au sein d'école, je vais donner un retour aux sponsors. Donc il y a une grande partie du projet qui commence une fois que je suis arrivée et c'est la construction du récit. Pour moi, elle est aussi importante que l'effet en soi. Donc j'ai aujourd'hui, avec un peu de recul, je me dis ce que j'ai fait, mon dernier exploit, la traversée de l'Atlantique sur un tout petit bateau, pas du tout fait pour, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel parce que c'est pas quelque chose d'inédit dans le monde. C'est pas la première fois que quelqu'un traverse un océan. Les Portugais, ils ont fait ça en 1500 et mon pays a été construit autour de ces navigations, autour de ces transats. C'était pas la première fois qu'une femme faisait ça. J'étais inspirée par plein de femmes qui ont fait des tours du monde et qui ont fait plein de choses incroyables. Mais je pense que c'était la simplicité du projet et la puissance du récit. De qu'est-ce qu'on peut faire quand on a l'envie, même quand les ressources sont limitées, qui a touché et qui touche les personnes. C'était une histoire assez concrète, un exemple assez précis et visuel et simple et puissant de comment aller loin avec des ressources limitées, comment faire beaucoup avec peu. Et c'est ça qui me motive aujourd'hui. C'est pas d'arriver à une certaine place d'un classement, c'est de pouvoir démontrer qu'on peut aller loin avec peu.
D'ailleurs, ça pourrait être ta devise aussi, hein, aller loin avec peu pour tes projets. En parlant de concentration, ça m'a fait penser effectivement sur ton, alors j'allais dire ton second métier ou peut-être ton premier, j'en sais rien, mais ton métier d'écrivain, d'écrivaine. Comment tu écris? Est-ce que tu écris beaucoup en mer? Est-ce que tu écris à terre? Est-ce que tu écris en mer et tu corriges et tu amendes à terre? Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton procédé créatif?
Les journaux de bord, pour moi, sont un outil indispensable pour pouvoir avoir les idées claires, pour pouvoir prendre du recul sur ce que je vis et surtout pour sortir de la position des victimes des difficultés que je vis et être protagoniste de mon parcours. Quand on écrit à la première personne, on est obligé d'être protagoniste, on est obligé d'être celui qui construit l'histoire, on est obligé on a les pouvoirs, on est obligé de l'avoir, de faire prendre en main ces pouvoirs, de construire notre histoire. Et des façons très concrètes. Et donc, les journaux, c'est tout d'abord un outil nécessaire pour ça. Derrière, une fois, je pense qu'il y a les mots aujourd'hui. Bon, ils sont tellement mis en question quand on se rend compte que les images, les photos, les vidéos, elles sont tellement attirantes. Et pour travailler avec les réseaux sociaux depuis longtemps, je sais à quel point une image visuelle, elle a un engagement qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus instantané et qui dépasse les frontières de la langue. Donc, à première vue, ça donne l'impression que les mots, ils ne servent pas à grand-chose. Mais les mots, ils ont un grand pouvoir. Ils donnent au lecteur la chance d'imaginer. Et je vois les mots comme une série de clés qui ont la possibilité d'ouvrir des portes de plein de maisons. Donc, la clé mère, elle ouvre la porte de cette maison où se situe l'imagination de qu'est-ce que c'est la mère. La clé danger, elle ouvre la porte de cette imagination de qu'est-ce que c'est le danger. Par contre, chaque personne n'a les droits à ouvrir que ses propres portes de ses propres rues. Donc, personne n'aura jamais accès à mon imagination de la mer, à mon imagination du danger, puisque la personne ne peut ouvrir que ses propres portes qui sont construites de ses propres expériences. Donc, je pense que la littérature, l'écriture, la langue, elle a toujours ses pouvoirs. C'est des pouvoirs accéder à nos propres mémoires, nos propres souvenirs et de construire un certain acheminement dans nos idées qui nous appartiennent.
Hormis les grands récits de navigation ou d'explorateurs, est-ce que tu lis d'autres types de littérature et est-ce que tu peux nous citer peut-être un ou deux de tes derniers coups de cœur littéraires?
J'aime beaucoup lire de récits de voyage. C'est ça qui m'a aidé à avoir envie et c'est pour ça que je tiens à cœur l'idée d'écrire des récits de voyage pour pouvoir transmettre cette envie qui est très dangereuse à d'autres gens. J'ai lu aussi beaucoup de poésie. Je me suis intéressée à la poésie par la synthèse, les pouvoirs de synthèse, de dire beaucoup dans un espace très réduit. Et pour moi, ça a beaucoup de force. Et il y a un livre que j'ai révisite souvent et pour moi, je pense que c'est un de mes livres préférés, c'est On the Road, donc Sur la route, de Jack Kerouac. J'adore ces livres par la fluidité du texte et je sais que je peux l'ouvrir dans n'importe quelle page et je me sens transportée à plein de contextes différents. Je me reconnecte avec une espèce d'idéal de jeunesse que je n'ai pas vécu. Et je pense que j'étais un peu trop disciplinée, un peu trop littéraire, un peu trop un peu trop académique pour mon âge. Mais je me reconnecte avec cet idéal de liberté, cet idéal de dépassement des frontières qui m'est aussi très intéressant.
Eh bien, moi, j'ai un petit conseil littéraire pour toi. Moi, mon livre coup de cœur quand j'avais ton âge, que j'avais lu en croisière, c'était « Le marin de Gibraltar ». Je ne sais pas si tu l'as lu, de Marguerite Duras. Eh bien, lis-le, tu vas voir, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Je ne suis pas forcément fan du reste de l'œuvre de Duras, même si je respecte énormément son œuvre, mais Le Marin de Gibraltar, c'est un truc à part et je pense que ça va te parler. Écoute, Tamara, voilà, il va être temps de conclure. Moi, je vais monter dans un avion pour le Brésil et puis toi, tu vas continuer à préparer ton futur projet. Je pense que tout le monde a hâte de savoir vers quoi tu t'élances. Moi, j'ai quelques indices, mais je ne dirai rien à nos auditeurs. Mais voilà, il est certain qu'on va avoir beaucoup de monde. Tu vas avoir encore beaucoup de monde qui va te suivre dans tes aventures et moi le premier. Et donc, je te souhaite plein de courage pour la suite de la préparation de ce nouveau défi. Et puis, à très bientôt, probablement à Lorient, puisque hein, tu t'es expatrié, tu habites, en tout cas, tu es de passage à Lorient en ce moment.
Yes, merci beaucoup, Christopher. Ah bah, je te souhaite un bon vol. D'ailleurs, tu vas voler avec mon père. Par coïncidence, il va prendre le même avion. On a parlé de lui dans les podcasts et j'étais tout à l'heure avec lui au téléphone en partageant la description de toi pour qu'il puisse te retrouver dans l'avion, dans l'aéroport. J'espère que ce sera un super vol. J'ai hâte de te retrouver ici à Lorient. J'ai encore un mois avant mon prochain départ. Il sera, je pense que pour être brésilienne, j'en ai eu assez de soleil pour ma jeunesse. Et là, je pars vers les froids. Donc, je suis très motivée pour ça. Et je sais que c'est un sujet qui t'intéresse aussi, les pôles. Donc, j'espère qu'on pourra se retrouver pour en parler avec plus de détails. Merci beaucoup aux écouteurs. On dit écouteurs ou auditeurs?
Auditeurs.
Aux auditeurs. Merci beaucoup aux auditeurs qui ont partagé ce moment avec nous dans ces podcasts. Je suis très contente d'avoir pu en faire partie.
Et moi, je dis obrigada, obrigado.
Obrigada, oui, obrigada. C'est très bien. Obrigada a todos.
Vous venez d'écouter Dans la tête d'un leader,
le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs.
Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, de nouveau avec un marin ou un dirigeant inspirant.
En attendant, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux.
Et rendez-nous visite sur marseille.com ou sur notre page LinkedIn. À très vite !